Donc je laisse la parole à Daniel Tanguay, dont sa communication a pour titre « Pierre Manant, sociologue du politique, point d'interrogation ».
Bonjour, merci. Écoutez, je me sens un petit peu gêné parce que je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes parce que Francesco a dit, finalement, vendu beaucoup des scoops que je voulais vous présenter cet après-midi. Et même Pierre Manant a répondu à quelque chose qui est central dans mon exposé comme de façon préventive. Donc, j'ai comme l'impression que je vais vous servir quelque chose qui est déjà dessoufflé. Donc, je tiens à remercier Jean-Vincent Lindre et Giulio de m'avoir invité pour participer à ce colloque. Je m'en sens très honoré. Pierre Manant, sociologue du politique. J'ai bien conscience du caractère incongru et peut-être inutilement provocateur du titre de mon exposé. Je soupçonne aussi que Pierre Manant a dû lui-même en être quelque peu agacé. En effet, lorsqu'il est pressé de questions au sujet de son affiliation disciplinaire, il résiste farouchement à un quelconque enfermement dans un champ du savoir. Wikipédia a beau affirmer avec une belle assurance qu'il est un philosophe politique, son rapport avec cette discipline, ou tout au moins avec ce qui se pratique sous ce nom aujourd'hui, est loin d'être simple et dénué de distance critique. Ce soupçon envers la philosophie politique se manifeste même à l'égard du philosophe politique contemporain qui a assurément le plus compté pour lui, Léo Strauss. Si Manant, en effet, a très tôt entendu tous les appels des sirènes straussiennes, il n'a jamais plongé pour les rejoindre. Et, comme Ulysse, il est resté bien attaché à son mât sur le même navire, sur la même galère, oserais-je dire, que le commun des mortels. Dans un récent livre d'entretien, il a révélé jusqu'à quel point il ne communiait pas à la foi philosophique platonicienne des Straussiens et expliqué pourquoi leur orgueil philosophique lui demeurait étranger. Si philosophe politique il est, Manant n'appartiendrait toutefois donc pas à l'espèce platonico-straussienne. Il serait plus proche d'Aristote, parce que le Stagirite est pour lui le philosophe qui a établi la science politique ancienne à partir d'une expérience concrète, celle de la cité grecque. De la même manière, Manant fait remarquer qu'il existe une science politique moderne qui répond à une expérience politique spécifique, la formation de l'État moderne, puis l'apparition de l'État-nation. Remarquez qu'il ne s'agit plus ici de philosophie politique à strictement parler, ou, comme le disait Strauss, de la tentative de remplacer l'opinion concernant la nature des choses politiques par une connaissance de la nature des choses politiques. Certes, il s'agit bel et bien dans les sciences politiques dégagées par Manant de connaissance de choses politiques. Cependant, pour lui, nous ne sommes pas condamnés à une dialectique infinie qui frustre constamment notre désir de connaître l'essence des choses politiques. Nous pouvons en acquérir une connaissance scientifique. On ne saurait trop insister sur ce caractère positif de la science politique manantienne et sur l'invitation qu'elle contient à prendre à bras-le-corps la réalité politique. Manant serait-il dès lors un politologue ou encore un politiste? Certes non. Il n'emprunte pas les méthodes propres à la science politique contemporaine, voire il les rejette au nom d'une appréhension qu'il estime plus naturelle et de là plus juste du monde politique. Or, dans la mesure où la science politique contemporaine a emprunté de larges pans de sa méthode à la sociologie, la question d'un Manant sociologue du politique ne trouve-t-elle pas d'emblée une réponse immédiate et définitive? Ne pourrait-on pas alors reprocher à celui qui la soulève de se livrer à un pur jeu de l'esprit, ou pire encore, à un exercice scolastique vain? J'assume par avance ce reproche. Je me livrerai ici à un exercice scolastique, mais qui, je l'espère, ne vous paraîtra pas inutile et ne déplaira pas totalement à cette moitié de thomistes que Manant affirme mystérieusement être toujours. En bon scolastique, je commencerai par exposer quelques objections tirées de la pensée de Manant qui témoignent de son désaccord de fond avec la sociologie politique. Puis, j'argumenterai à contrario en montrant que l'idée manantienne de forme politique n'est pas si éloignée, contrairement aux apparences, de certaines intuitions fondamentales de la sociologie politique. En conclusion, j'indiquerai comment on peut atténuer un peu plus l'opposition manantienne entre philosophie et sociologie politique en recadrant sa pensée dans le mouvement de la tradition française libérale de sociologie politique. Manant a critiqué à de nombreuses reprises dans son œuvre les prétentions des sciences sociales, mais sa critique s'est déployée dans toute sa vigueur dans le chapitre 2, intitulé précisément « Le point de vue sociologique » de son opus magnum « La cité de l'homme ». À part le chapitre sur Weber de Strauss dans « Droit naturel et histoire », je ne connais pas une critique aussi dévastatrice et sans pitié de la méthode propre aux sciences sociales. Le rapprochement n'est d'ailleurs pas fortuit, car on pourrait montrer que certaines des critiques de Manant recoupent celles de Strauss. La visée de fond en est en tout cas la même, libérer l'enquête sur les choses politiques du point de vue sociologique qui est considéré par nos deux auteurs comme un obstacle majeur à leur connaissance véritable. On notera toutefois que Strauss se réfère davantage dans sa critique à Weber, alors que Manant vise plutôt par elle Montesquieu et Durkheim. Cela s'explique en partie par la séparation entre les traditions sociologiques françaises et allemandes, mais aussi et surtout par le fait que dans sa reconstruction du point de vue sociologique, Manant accorde une place privilégiée à la thèse latine de Durkheim qui faisait de Montesquieu un précurseur de la sociologie. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette thèse a tant intéressé Manant. En effet, Durkheim y rejette en pleine connaissance de cause l'approche philosophique traditionnelle des choses politiques et présente les linéaments de sa méthode qui seront pleinement développés quelques années plus tard dans son célèbre traité « Les règles de la méthode sociologique ». Les arêtes de l'opposition entre sciences politiques traditionnelles et sociologie surgissent ainsi très distinctement dans leur état naissant. L'un des reproches principaux que Durkheim adresse à la philosophie politique traditionnelle est qu'elle manifeste un plus grand intérêt à définir ce que doivent être les choses politiques plutôt qu'à rechercher ce qu'elles sont. En d'autres termes, la philosophie politique est guidée essentiellement par la question « Quel est le meilleur régime ?» Or, pour répondre à cette question, les philosophes en appellent, selon Durkheim, à une finalité qui serait prétendument inscrite dans la nature humaine. C'est pourquoi les philosophes politiques chercheront à corriger ou encore à transformer la réalité politique lorsqu'elle ne correspond pas aux finalités humaines auparavant définies et déduites. C'est ce qui fait dire à Durkheim que la philosophie politique traditionnelle est plus un art qu'une science, au sens où sa réflexion sur la nature humaine est au service des opinions que l'on peut se faire à partir de considérations le plus souvent arbitraires sur la nature humaine. Pour corriger le vice de méthode de la philosophie politique traditionnelle, il s'agirait désormais de faire reposer l'enquête sur les choses politiques sur une observation systématique qui n'aurait pas pour but de confirmer nos états d'âme. Le sociologue devrait donc adopter le point de vue d'un spectateur absolument impartial qui suspend son jugement face aux choses politiques qu'il examine. C'est précisément au sujet du sens à donner à cette impartialité que Manant formule sa première critique à la méthode sociologique. Il faut toutefois, auparavant, en délimiter clairement la portée. Les philosophes politiques traditionnels recherchaient eux aussi une impartialité. C'est par exemple le cas d'Aristote. Sa démarche implique une certaine rupture avec le monde des opinions et avec la compréhension commune des motifs de l'action. L'impartialité d'Aristote ne va cependant pas jusqu'à le détacher de tout jugement sur les opinions. Selon Aristote, comme dans toute science, la méthode de la science pratique doit s'accorder à son objet. Pour comprendre une action humaine, l'on doit en saisir les motifs et les finalités, ce qui veut dire que l'on ne peut les traiter comme des choses obéissant à la seule nécessité. Il faut prendre au sérieux les termes de la délibération pratique qui conduisent à l'action, ce qui veut dire aussi juger les motifs des actions. En revendiquant le point de vue radical du spectateur impartial, le sociologue, quant à lui, de la vie de Manon, introduit d'emblée une distorsion avec l'expérience pratique familiale. Il prend les choses politiques comme des choses au sens littéral du terme. Cette distorsion du regard rend l'explication du comportement humain inintelligible, car elle présuppose toujours que l'agent est aveugle au motif véritable de son action et que seul le sociologue pourra décrire et expliquer les déterminants sociaux qui agissent à l'insu des individus. Manon sait pertinemment que la sociologie, et en particulier la sociologie weberienne, a cherché à corriger l'étroitesse du point de vue durkheimien du spectateur impartial en réintroduisant le point de vue de l'acteur. Cette tentative était toutefois, selon lui, vouée aussi à l'échec. L'individualisme dit méthodologique n'arrive pas en effet à saisir l'agent dans sa délibération parce qu'il postule que l'agent est mu par des valeurs qui, par avance, sont neutralisées par le regard sociologique. Le sociologue contemple ainsi toujours de l'extérieur l'être humain engagé dans l'action au nom des valeurs. De la rupture forcée avec la familiarité à la tentative de recouvrer la familiarité perdue, il s'agit donc toujours de la même attitude de prise de distance déformante à l'égard des choses politiques. Si Manon ne récusait pas tant l'utilisation de termes philosophiques pompeux, on pourrait dire que sa pensée s'apparente à une phénoménologie de l'action politique qui cherche à nous faire pénétrer dans l'action politique telle qu'elle se donne à nous, non telle qu'elle est retraduite par les discours savants et réducteurs. Cette phénoménologie de l'action politique débouche à n'en pas douter sur une science politique, mais cette science tiendra toujours compte du caractère libre et indéterminé de l'action humaine, plutôt que de le nier par souci de méthode. Cette première critique de Manon, le sociologue ou la sociologie par sa méthode trahit son objet, débouche sur une critique plus essentielle encore. Elle porte sur le type de causalité recherché par Durkheim. Or, cette causalité doit être aussi rigoureuse que la causalité nécessité-causale qui règne dans la nature et qui a été découverte par la science moderne. Durkheim nous place donc devant les termes d'une alternative. Je cite, « Il faut donc choisir. Ou bien les choses sociales sont incompatibles avec les sciences, ou bien elles sont gouvernées par la même loi que les autres parties de l'univers. » On comprendra dans cette perspective pourquoi Durkheim jugeait que la philosophie politique traditionnelle ne pouvait être considérée comme une science. Elle était, en fait, fondée, selon lui, sur le présupposé intenable que les individus étaient créateurs du monde social et politique. Le témoignage le plus vivant de cette illusion était le rôle déterminant que les anciens attribuaient aux grands fondateurs ou législateurs qui, à partir de leur seule volonté, constituait l'ordre de la cité. Il ne peut être question pour moi de pénétrer ici dans toutes les subtilités de la critique que Manon conduit contre le type de causalité revendiqué par l'explication sociologique. Je me contenterai de signaler un seul argument qui donne une bonne idée de l'orientation générale de cette critique. Manon remarque que par sa volonté de trouver des causes profondes aux institutions humaines et d'introduire ainsi un strict déterminisme dans les actions humaines, le sociologue est immanquablement conduit à fournir une explication par les causes secondes. Se refusant à voir l'être humain et sa liberté comme cause première de choses politiques, il se voit contraint de multiplier les causes secondes, les déterminants sociaux, pour les expliquer. Or, le statut de ces causes reste souvent mal déterminé. Soit que l'explication causale invite à une sorte de régression à l'infini, soit encore que la cause pour devenir crédible doit être accompagnée d'un nombre incontrôlable de restrictions. Comme le dit Manon, je cite, « Ce que la littérature sociologique offre le plus souvent, ce sont des causes qui ne causent pas vraiment, ou alors pas nécessairement, en tout cas pas toutes seules, mais seulement à grand renfort de conditions, causes annexes supplémentaires et complémentaires. » Cet arbitraire de l'explication sociologique repose en fait sur la volonté de réduire la part de contingence propre à l'action humaine et de soumettre ainsi l'homme aux lois sociologiques. Je cite encore Manon. « Pour que le phénomène humain puisse être objet de science, il faut et il suffit que les lois sociologiques soient générales et nécessaires. Et la condition nécessaire et suffisante de telles lois, c'est que l'homme, au lieu d'être la source libre, naturellement libre de ses actions et de ses œuvres, soit rigoureusement nécessité à faire ce qu'il fait et comme il le fait. Sous le regard sociologique, l'homme apparaît non plus comme cause, mais comme effet, non plus comme causant, mais comme causé. » On comprendra, à la lumière de cette citation, que s'il existe dans l'esprit de Manin une science politique possible, cette dernière ne devrait pas prendre les causes secondes pour la cause première et qu'elle devrait ainsi accepter une certaine part d'indétermination à l'ordre humain. Alors, à l'origine de l'ordre politique, il y a et il y aura toujours des décisions humaines qui donnent une forme à cet ordre. C'est pourquoi l'image mythique des grands fondateurs et législateurs des cités conserve une large part de vérité. Elle illustre le pouvoir créateur de l'homme en tant qu'animal politique. La critique manantienne de la sociologie est, semble-t-il, sans reste. Non seulement la prétendue impartialité du sociologue l'empêche de comprendre les choses politiques dans leurs propres termes, mais la sociologie promet toujours plus que ce qu'elle peut en fait livrer comme compréhension de l'ordre politique. Plus gravement encore, le point de vue sociologique est fondé sur l'oubli de l'homme, et cet oubli provoque un aveuglement sur ce qui constitue l'essentiel de la condition humaine, soit le fait que l'homme est un animal politique et que pour le comprendre, il faut le ressaisir à partir des ordres politiques qu'il a créés. Là est la véritable science politique. Sur ce point fondamental, la science politique manantienne est pleinement en accord avec la philosophie politique traditionnelle et elle prend ainsi la science sociale à contre-pied. Parvenu à ce point, il semble bien que la question d'un Pierre Manant, sociologue du politique, paraisse tout à fait réglée. La conclusion que l'on devrait tirer de mon bref examen est que le projet philosophique de Manant d'une restauration d'une science pratique ou politique traditionnelle présupposait une critique radicale de ce qui se présente aujourd'hui comme science de l'homme. Je pense que cette conclusion est la bonne, mais je crois qu'elle exige d'être nuancée. Je souhaite maintenant montrer que le rapport polémique de Manant avec la sociologie politique ne va pourtant pas sans une certaine communauté de vues avec un regard sociologique entendu dans un sens large. Et je dirais que cet accord est devenu plus sensible au fil de l'évolution de sa pensée. Tout lecteur attentif de Manant n'a pas manqué, j'en suis sûr, de noter un infléchissement majeur de sa pensée depuis au moins la Cité de l'homme. Alors que dans un premier temps, Manant était principalement préoccupé par la question traditionnelle du meilleur régime, dans un second moment de sa pensée, la question du meilleur régime, sans bien sûr disparaître entièrement, cède la place à la question de la forme politique. Plus encore, la question de la forme politique devient désormais pour lui la question première de la philosophie politique, car ce n'est qu'avec l'apparition d'une forme politique particulière, la cité ancienne, que surgit l'interrogation philosophique sur le meilleur régime. Ce bouleversement de l'ordre des questions premières de la philosophie politique met en lumière les limites de la science politique grecque. Dans la mesure où la cité est le cadre général dans lequel se déploie cette science, elle demeure un présupposé non questionné en tant que forme politique. C'est pour cette raison que même Aristote, le guide favori de Manant en philosophie politique, ne possède pas, selon lui, un enseignement précis sur les formes politiques. Pour lui, la cité fait figure d'évidence naturelle. Si tel est bien le cas, on saisit alors pourquoi la réflexion sur les formes politiques marque une rupture avec la science des régimes, puisqu'elle rend, pour ainsi dire, visible l'angle mort de cette science. La tâche de la philosophie politique ne pourra plus être seulement la réflexion sur la nature des régimes et leur rapport au bien politique, mais elle devra désormais adopter une toute nouvelle approche qui tentera de saisir l'articulation entre régime et forme politique. J'ai dit « nouvelle approche », alors qu'il faudrait peut-être dire « nouvelle science ». Manant affirme ainsi, dans les Métamorphoses de la cité, je cite, « La recherche que j'entreprends ici porte principalement sur les formes politiques, ces modalités de l'association humaine dont aucune science n'a fait son objet spécifique, mais dont la succession ordonne le mouvement de l'histoire humaine. » On a l'impression, à suivre ici Manant, qu'il en appelle à la constitution d'une nouvelle science, une science inédite des formes politiques qui viendrait compléter la science politique grecque et la science politique moderne. Il refuse pourtant explicitement, un peu plus loin dans le même ouvrage, une telle proposition. Il déclare en effet, je cite, « Je ne propose pas ici une troisième science politique qui ferait la somme ou la synthèse de l'ancienne et de la moderne. L'approche que je vais tenter de mettre en œuvre appartient, je l'espère, à la science politique ancienne, non parce qu'elle est ancienne, mais parce qu'elle est politique et qu'elle seule est pleinement politique, c'est-à-dire pleinement science du gouvernement des hommes, par les hommes. » Fin de la citation. Un peu plus haut dans le même texte, il tenait pourtant pour pleinement légitime la requête de Montesquieu et à sa suite des sciences sociales, qui voulait, je cite, « qu'en tenant ensemble, sous le regard la science ancienne de la cité de ses limites et l'expérience ultérieure d'autres formes politiques, nous nous ouvrons la possibilité d'une science plus complète. » Ne pourrait-on pas alors soutenir que Manant, avec son histoire raisonnée des formes politiques, a en fait pour ambition d'élaborer cette science plus complète? Science qui embrasserait du regard la succession des formes politiques dans la dynamique de l'Occident. Et cette nouvelle science ne serait-elle pas dès lors une synthèse inédite qui reprendrait les acquis de la science politique ancienne et moderne en les dépassant dans une vision englobante de l'histoire politique? Cette nouvelle science, enfin, ne partagerait-elle pas un terrain commun avec les sciences sociales dans la mesure où, ne se contentant plus de la seule réflexion philosophique sur les régimes, elle veut dégager comme elle des types généraux de société ou de formes politiques non réductibles au régime? Une manière de répondre à ces redoutables questions est de revenir à la genèse de la notion manancienne de forme politique. En lisant Manant, on devine que cette notion entretient des liens avec une autre notion chère aux sciences sociales, celle de type de société. Cette ère de famille peut être éclairée en examinant le traitement réservé par Manant à la constitution de la science politique moderne par Montesquieu. Comme nous l'avons vu plus haut, Montesquieu jugeait qu'une telle science était rendue nécessaire par le fait que la science politique grecque trouvait sa limite dans l'expérience grecque. Selon Montesquieu, cette science politique grecque ne nous était d'aucun secours pour éclairer la nature de ce phénomène politique majeur qu'est la constitution de la monarchie de type moderne. La nouvelle typologie des régimes proposée par Montesquieu cherchera justement à intégrer cette dimension en accordant une place de choix à la monarchie moderne. Or, on se souviendra du rôle essentiel que Manant fait jouer à cette monarchie moderne, à la fois dans la résolution du problème théologico-politique occidental et dans l'avènement de la forme politique moderne par excellence, soit l'État-nation. Sur ce point, son analyse suit celle de Montesquieu, tout en l'enrichissant notablement. Or, si l'on sert de plus près la nouvelle typologie des régimes de Montesquieu, on note que le philosophe portait une attention particulière aux conditions générales sociales favorisant l'émergence des différents régimes. Il insistait ainsi sur le lien entre le régime politique et la densité de population. Alors que le régime républicain était lié à une petite communauté dont les membres étaient fortement unis entre eux, la monarchie convenait à une population beaucoup plus nombreuse, divisée encore, qui à la fois rivalisait et se contrecarrait. Le despotisme, quant à lui, rassemblait de grandes masses d'individus qui étaient égaux dans la servitude. Dans sa thèse latine, Durkheim souligne que si Montesquieu est un précurseur de la sociologie, c'est bien à cause de l'établissement de cette typologie et de l'esprit qui en nourrit l'élaboration. Pour Durkheim, en effet, l'une des tâches principales de la sociologie est d'établir une typologie qui permet de différencier des types de sociétés et de les comparer entre elles. Le grand mérite, à son avis, de la typologie de Montesquieu est qu'elle ne se contente pas de classer les régimes selon le critère aristotélicien du nombre des détenteurs de pouvoir, mais qu'elle renvoie à des types de sociétés déterminés par des causes plus générales. Durkheim met particulièrement l'accent sur l'une de ces causes, celle du volume de la société, ou dirait-on aujourd'hui de la densité de la population. Si l'on simplifie à outrance la pensée de Durkheim, on peut affirmer que pour lui, le volume détermine la forme de société et que la forme de société détermine à son tour le régime politique. Cette question du nombre n'est pas étrangère à la pensée de Manon. Cet intérêt pour le volume des sociétés lui vient en partie de sa lecture d'Aristote. Pour Aristote, comme chacun sait, la communauté des citoyens d'une cité doit pouvoir être embrassée du regard. La cité peut devenir le lieu du gouvernement de soi parce qu'elle est constituée de citoyens qui s'entreconnaissent tout au moins de visu. C'est encore en vertu du critère du volume qu'est jugée la forme opposée de la cité, l'Empire. L'Empire est en effet ce grand corps politique qui rassemble pêle-mêle de vastes peuples soudés par la domination sans pitié d'un seul. Le volume de la population de l'Empire n'autorise donc pas un authentique gouvernement de soi par la communauté, mais pousse cette forme politique à adopter un régime despotique. Ce qui apparaît comme de simples suggestions chez Aristote est développé de manière beaucoup plus élaborée par Manon dans sa science des formes politiques. Comme pour Montesquieu, la question du nombre semble en effet déterminante pour lui dans la compréhension de la dynamique des formes politiques. L'une des raisons de l'échec de la cité à l'aube des temps modernes fut son incapacité à résister à la poussée des États plus nombreux et plus puissants qui s'étaient constitués en vastes royaumes. Les monarchies modernes avaient, par leur taille et leur volume, la puissance qui manquait aux cités, tout en demeurant, contrairement au Saint-Empire romain germanique, gouvernable. Comme je l'ai indiqué plus haut, l'État-nation s'est coulé dans la forme des monarchies modernes nationales. On sait toute l'importance que cette nouvelle forme politique revêt aux yeux de Manon. C'est en effet elle qui a donné un cadre stable au régime de la démocratie représentative. L'État-nation fut la réponse à la vieille question de la philosophie politique traditionnelle, encore bien présente chez Montesquieu, Rousseau ou encore chez les auteurs des Federalist Papers. Un régime de liberté républicaine peut-il exister hors d'une cité de petite taille et de population réduite? Cette question de la taille et du volume adéquat à la forme politique et au bon régime est aussi au cœur des réflexions actuelles de Manon sur l'avenir de l'Europe. Manon répète inlassablement que le problème de l'Europe est qu'elle s'est construite sans choisir ultimement la forme politique qu'elle voudrait se donner. Elle hésite entre un regroupement large d'États-nations et une forme inédite d'empire. Cette paralysie devant le choix de la forme politique à adopter est aggravée par l'extension sans limite apparente de ses frontières et par l'accroissement sans contrôle du volume de sa population. Ces quelques exemples tirés de l'histoire manancienne raisonnée des formes politiques montrent qu'il existe un lieu de passage entre sa pensée et la tradition sociologique française. L'importance accordée à la taille et au volume dans ce que Durkheim appelait la morphologie sociale. Nul doute que cette morphologie sociale n'est pas de même nature que celle proposée par Durkheim. Pour Manon, cette morphologie sociale est avant tout une morphologie politique, au sens où c'est l'ordre politique qui est l'ordre causant actif, non la société. C'est pourquoi le volume ne remplit certes pas pour lui la fonction de cause déterminante absolue que lui attribue rapidement la sociologie durkheimienne, mais la science manancienne des formes politiques réserve tout de même un accueil plus favorable à ce genre de considération que la polémique du premier Manon contre les sciences sociales le laisserait de prime abord soupçonner. Je conclue maintenant. La science politique manantienne entretient une certaine affinité avec le regard sociologique entendu au sens large. L'idée maîtresse de forme politique implique une considération des choses politiques attentive aux conditions générales qui donnent naissance aux diverses formes politiques dans l'histoire. La forme politique vient ainsi remédier au caractère trop étroit d'une philosophie politique se braquant sur la seule idée de régime politique. Bien sûr, cette pratique du regard sociologique n'a rien à voir avec le dogmatisme de l'école durkheimienne et elle se garde bien de confondre l'ordre des causes premières avec celui des causes secondes. Elle se reconnaît davantage plutôt dans la tradition plus souple de ce qu'Aron appelait l'école française de sociologie politique. On se rappellera que sous ce terme, Aron regroupait Montesquieu, Tocqueville, Élie Lévy, qui étaient, comme il l'indiquait, des sociologues peu dogmatiques, intéressés avant tout par la politique, qui, sans méconnaître l'infrastructure sociale, dégagent l'autonomie de l'ordre politique et pensent en libéraux. Si Manant est un sociologue politique, c'est bien par son appartenance à cette fameuse école française de sociologie politique. Il a reçu en héritage cette tradition et il a su le faire fructifier à sa manière. Il fut peut-être moins sous le charme des prestiges du régime moderne que ses illustres prédécesseurs et a davantage senti le besoin dans ses écrits et dans son enseignement de puiser à la source de la science politique des anciens pour éclairer notre situation. Mais même encore là, les anciens qui eurent sa faveur, Aristote en premier lieu, prônent une approche des choses politiques qui partage de nombreux traits avec celle d'un Montesquieu ou d'un Tocqueville. C'est en tout cas dans l'horizon plus large de cette tradition sociologique libérale française que l'on pourrait ressaisir le sens profond de l'histoire raisonnée des formes politiques proposées par Manant. Elle articule en effet de manière subtile les rapports complexes entre, pour reprendre les termes d'Aron, l'infrastructure sociale et l'autonomie du politique. Elle formule aussi une typologie qui permet de dégager des traits généraux de chacune des formes politiques et d'ainsi fixer les termes d'une analyse comparative. Elle inscrit enfin ses formes dans une dynamique historique qui prend son point de départ avec la cité pour aboutir à l'État-nation en passant par une série de formes intermédiaires. Manant, sociologue du politique donc, on aura compris que cette question est plus complexe qu'il n'y paraît et qu'elle exigerait un traitement beaucoup plus exhaustif que me le permettait le temps alloué cet après-midi. Elle est aussi oiseuse si elle se fixe pour unique but de classer une démarche intellectuelle aussi subtile et riche que celle de Manant sous une rubrique disciplinaire et ainsi de se débarrasser à peu de frais de questions fondamentales que sa pensée pose à notre compréhension des choses politiques. J'ose espérer n'être pas tombé ici dans ce travers, car je n'aurais pas alors été à la hauteur de ce qui est le plus précieux dans la pensée de Manant, à savoir son mouvement, voire son entrain. Cette dernière remarque me conduit à une conclusion d'un ton plus personnel que m'autorise, je crois, le caractère singulier de ce colloque. Durant les 25 dernières années où j'ai lu ou écouté Manant, je n'ai jamais manqué d'apprendre à son contact quelque chose venant bouleverser mes idées reçues et me forçant à reconsidérer d'un œil neuf ce que j'estimais pourtant savoir. Derrière la clarté éblouissante de sa prose, et la vivacité inquisitrice de sa parole se révèle une profondeur et une ampleur de vue que l'on ne perçoit pas toujours du premier coup d'œil. Encore là, il est un héritier et un digne héritier de cette tradition libérale de sociologie politique française qui se faisait un point d'honneur d'exprimer les réalités humaines les plus profondes dans une langue claire, simple et directe. Il maintient ainsi vivante une certaine idée de la civilisation française et de la France de l'esprit. Ce n'est donc pas un accident s'il est une source d'inspiration et d'espérance pour ceux et celles qui, perdus aux marges boréales de l'Empire américain, s'efforcent de prolonger et de renouveler, dans la mesure de leurs modestes moyens, l'élan de cette admirable civilisation. Merci.
Alors, nous écoutons maintenant l'exposé de Vincent Descombes et le titre de sa communication est la définition philosophique du politique.
Je commencerai en disant combien moi également je suis très heureux de participer à cette réflexion collective sur la pensée de Pierre Manant. Je vais procéder en deux temps. D'abord, je vais essayer de faire voir combien sa pensée détonne dans le consensus de la théorie politique contemporaine et combien il est à contre-courant, en un sens, derrière la clarté là, dont on vient de parler et de la simplicité. En réalité, je vais essayer de montrer que son travail ringardise les avant-gardes. Et dans un deuxième temps, je reviendrai sur un point qui a déjà été abordé dans l'exposé de Francesco Calegaro et dans celui de Daniel Tanguay, qui est le politique et le social. Alors, mon titre, la définition philosophique du politique, part de ce qui pourrait sembler un lieu commun, à savoir qu'il appartient aux philosophes de donner une définition du domaine politique dans les affaires humaines en général, donc dans les soucis humains, les intérêts humains, les fins humaines, qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui échappe aux politiques. Eh bien, ce qui pourrait passer pour un lieu commun n'est pas un lieu commun, car ce point de vue a été mis en question de plusieurs côtés. Et d'abord, par une objection qui avance l'idée que il n'y a pas de philosophie politique, ou s'il y en a, c'est un tort. Les gens qui le font sont des misérables, car en réalité, c'est la philosophie comme telle qui est politique. Et vouloir faire un chapitre de philosophie politique au sein de la philosophie, c'est prétendre isoler le politique, l'entourer d'un cordon sanitaire, le confiner dans un secteur, de façon à échapper à la responsabilité politique de toute question philosophique. Donc ça, c'est un peu ce qu'on entendait dans nos jeunes années, n'est-ce pas ? C'est à peu près le même âge. À cette objection, peut-être suffit-il de demander à ceux qui ont ce point de vue de nous donner des exemples, n'est-ce pas ? Par exemple, en philosophie des mathématiques, se pose le problème, n'est-ce pas ? Est-ce que l'objet mathématique doit être expliqué comme le font les formalistes, ou alors les réalistes, ou alors les intuitionnistes ? Et quelle est la couleur politique de chacune de ces écoles ? Alors, on n'a pas, bien que Badiou ait une position sur le nombre et sur la politique, on n'a pas le lien entre les deux. Alors, vous direz, mais c'est les mathématiques, c'est très spécial, n'est-ce pas ? Prenez une question générale. Alors, il y a une question générale, c'est la thèse kantienne qui concerne absolument tout, à savoir, l'existence n'est pas un prédicat. Si vous êtes contre, quel est votre parti politique ? On ne sait pas. Donc, je crois pouvoir laisser cette objection et considérer alors des idées plus actuelles, plus présentes, à savoir que tout est politique et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de parler d'un domaine politique. Tout est politique. Alors, bien entendu, tout est politique pourrait s'entendre dans le sens politique. Et là, on aurait la définition du totalitarisme, au sens où Castoriadis rappelait, n'est-ce pas ? Il écrivait, je cite, « Tout est politique, ou bien ne signifie rien, ou bien signifie tout doit être politique, relevé d'une décision explicite du souverain. » Auquel cas, n'est-ce pas, la référence au souverain maintient une définition politique du politique. Ce n'est pas dans ce sens que le tout est politique est entendu dans plusieurs courants de pensée, dont je voudrais montrer qu'ils se font gloire d'avoir une définition apolitique du politique, et que c'est précisément contre cela que se dresse le travail de Manant. Tout est politique, pourquoi ? Eh bien, tout est politique parce que le politique, c'est le pouvoir, et tout est affaire de pouvoir. Et ici, je ne résiste pas au plaisir de rappeler la déclaration tonitruante de Roland Barthes, n'est-ce pas ? La langue est fasciste, puisqu'elle m'impose une syntaxe. la langue est fasciste. Donc l'adjectif fasciste, qui était censé être politique, devient tout d'un coup apolitique, puisque où sont où est le parti de la syntaxe, où sont les meetings, etc. Donc le mot fasciste change de sens et devient apolitique, et donc désigne tout ce qui est barbant. Donc là, je soupçonne Barthes, quand il a dit ça, d'être en réalité devenu un sceptique en matière de politique et exprimer plutôt sa lassitude à l'égard de la politique. En revanche, nous avons des théories à la fois sérieuses et ambitieuses, et qui connaissent un succès, qui nous disent que le politique est partout, car le politique doit se comprendre par la définition relationnelle du pouvoir, et non pas, comme dans les théories classiques, par des attributs juridiques comme la souveraineté. Ainsi, selon l'explication que donne Michel Foucault, c'est un progrès intellectuel que de passer à une définition relationnelle du pouvoir, puisque ça nous permet de dire qu'il y a relation de pouvoir dès que quelqu'un peut obtenir de quelqu'un d'autre des choses que ce dernier pourrait lui refuser. Donc s'il ne les lui refuse pas, c'est qu'il subit le pouvoir du demandeur. Il pourrait les refuser. Autrement dit, la relation de pouvoir est donnée dès que vous avez deux libertés individuelles et que l'une de ces libertés fait faire à l'autre des choses que cet autre ne ferait pas spontanément, mais consent à faire et donc pourrait refuser de faire. Donc c'est ainsi que la possibilité de la résistance est inhérente à la relation de pouvoir, et c'est ce résultat qui est présenté comme le progrès intellectuel d'une définition relationnelle du pouvoir. Et donc, par conséquent, le politique n'est pas dans un domaine, il est dans le couple humain, il est dans la salle de classe, il est dans l'atelier, dans le bureau, dans l'autobus, et la relation de pouvoir est partout où il y a plusieurs êtres humains avec leur liberté. Pour parler en termes d'Aristote, et là donc je rejoint le terrain de maintenant, ça veut dire que dès qu'un rapport n'est pas despotique, il est politique. C'est ou despotique ou politique. Donc domestique, économique, toutes les autres formes de relations humaines peuvent être ignorées, puisque nous avons cette définition par le pouvoir. Et qu'est-ce qui fait que cette conception relationnelle du pouvoir est apolitique ? C'est qu'elle ne dit rien. Elle ne dit rien des motifs qui font que quelqu'un obéit à quelqu'un. Où sont les motifs de donner à quelqu'un ce qu'il demande alors qu'on pourrait le lui refuser ? Est-ce qu'il y a une promesse d'une rétribution ? Est-ce qu'il y a des menaces ? Est-ce qu'il y a référence à des promesses, des contrats ? Ou est-ce qu'il y a référence à une autorité politique ? Auquel cas, il aurait fallu expliquer quel était le rapport politique entre la liberté qui demande et la liberté qui consent à obéir. Et donc, cette définition relationnelle du pouvoir, en réalité, réussit le tour de force de contourner la nécessité de fournir un critère d'une relation de pouvoir qui soit une relation de pouvoir politique et non pas d'un autre ordre. Affectif, commercial, contractuel, juridique, etc., etc. Si on revient à ce qui me semble être à l'origine de la définition relationnelle du pouvoir, c'est-à-dire la théorie apparue aux États-Unis avant la guerre, qui illustre le livre classique de Harold Laswell, « Politics, Who Gets What, When and How », qui obtient quoi, où et comment. Le politique, c'est dans le comment. N'est-ce pas ? Si définir la politique par ce rapport d'obtenir quelque chose de quelqu'un sans préciser comment revient à donner à présenter une conception complètement indéterminée du pouvoir et donc à priver le politique d'une définition. Je ne veux pas être trop long, donc je passe sur des raffinements qu'on peut donner à la définition relationnelle, qui seraient les théories de la justice, d'un côté, les théories de la reconnaissance de l'autre, dont on peut montrer qu'elles sont également individualistes et se font un honneur de chercher le politique dans le non-politique. C'est ainsi, par exemple, je dis peut-être un mot quand même de la reconnaissance, n'est-ce pas ? Les théories de la reconnaissance, qui ont un certain succès aujourd'hui, nous disent qu'il faut... il y a une clé d'interprétation des conflits humains. Ce sont des conflits politiques en vue de la reconnaissance de la dignité des gens qui déclenchent un tel combat pour se faire reconnaître. Mais Hegel lui-même, dans le paragraphe de l'encyclopédie qu'il consacre au combat pour la reconnaissance, nous dit que ce combat n'existe qu'avant l'État et qu'il disparaît dès que la politique apparaît. Car s'il y a une communauté politique, alors les membres de cette communauté, quel que soit leur statut, n'est-ce pas, mais quand même ce serait un statut infâme, tout à fait inférieur, les gens sont déjà reconnus en tant qu'une communauté est en place. Donc le combat pour la reconnaissance suppose l'état de nature. Et les théories de la reconnaissance, donc, nous apprennent que nous sommes dans l'état de nature. Et donc, en deçà du politique. Eh bien, j'ai signalé toutes ces idées en vogue pour que ressorte l'anomalie enfin, de la pensée de maintenant, qui est qu'il y a un domaine politique et qu'il appartient à la philosophie de le définir. Et c'est ici que j'aborde le problème du politique et du social, en revenant à mon tour sur son explication de la science politique. Dans les métamorphoses de la cité, comme il a été rappelé, nous avons un chapitre au début qui est largement programmatique et qui met en place l'idée des deux sciences, du caractère non désirable d'une troisième synthétique et donc de son chemin propre dans un prolongement, élargissement de la première de ces deux sciences. Alors, la première science, c'est donc la science politique ancienne, eh bien, elle a partie liée avec l'expérience civique d'une société qui se gouverne elle-même, puisque maintenant écrit, je cite, « Se gouverner soi-même suppose la cité, la politique au sens plein et originel suppose la police. » Voilà on aurait dit, n'est-ce pas, voilà la ligne de démarcation, voilà où passe la frontière, pas la frontière, mais la ligne du combat entre toutes les théories que j'ai évoquées et la position de Manant. C'est le mot « cité » qui fait la différence. La définition d'un domaine politique, c'est par la référence à la cité qu'on peut l'introduire. Et quand on dit la cité, il faut sous-entendre que qui dit cité dit le bien de la cité. Donc c'est ce mot « bien » qui est introduit par la référence à la cité. Alors, se gouverner soi-même suppose la cité, on peut l'entendre de deux façons. Et il est possible qu'il y ait eu, à un moment dans la pensée de maintenant, une hésitation entre ces deux façons. Ça ressortait d'ailleurs dans les exposés précédents. Car vous pouvez comprendre que, puisque se gouverner soi-même, c'est l'expérience politique qui est la condition de la science politique, et que cette expérience suppose la cité, alors s'il n'y a pas de cité, il n'y a pas d'expérience politique. Et s'il n'y a pas d'expérience politique, il n'y a pas de science politique, sinon à titre de souvenir érudit, d'humanisme nostalgique, n'est-ce pas, de se tourner vers les anciens. Ou bien, vous pouvez comprendre, comme le font, au fond, les représentants de ce qu'on appelle, aux États-Unis, le républicanisme ou l'humanisme civique, vous pouvez comprendre que se gouverner soi-même suppose la cité, de telle sorte que notre expérience politique, si nous en avons une, suppose que nous ayons un équivalent de la police. Et cet équivalent, donc, pour nous autres contemporains, en ce début du XXIe siècle, ça serait la forme nationale. Et donc, c'est ainsi, je crois, que l'entend maintenant. Mais, explique-t-il, n'est-ce pas, la différence, alors, entre la position grecque et puis la nôtre, c'est que, précisément, nous n'avons plus la cité. Et donc, apparaît ici ce concept de forme politique qui va être mon objet dans... la fin de mon propos. Manant explique que les Grecs savent bien évidemment qu'il y a d'autres formes politiques, mais ces autres formes ne les intéressent pas. Elles sont mentionnées tout au plus. Et alors il cite l'ethnos, n'est-ce pas, qu'il traduit par la tribu. Il y a l'empire. Donc nous avons la cité. Il faut ajouter, dit-il, la monarchie tribale pour tenir compte de la Macédoine. Voilà donc les formes de l'Antiquité. Et viendra plus tard la forme imprévisible, en dehors d'une vision théologique de l'histoire, qui est l'Église dans sa forme médiévale, comme forme de la chrétienté dans l'Occident médiéval jusqu'à la Réforme et jusqu'à l'apparition des monarchies. Par conséquent, avoir perdu la cité, néanmoins, nous a permis d'élargir notre compréhension du politique en passant au point de vue des formes. Les formes différentes, dit-il, n'intéressent pas les Grecs, et il s'en tient à une page d'Aristote sur le caractère national à l'ouest, les Grecs, et puis à l'est, les Perses, n'est-ce pas j'aimerais néanmoins dire qu'il y a quelques pages trop brèves, mais significatives dans la politique d'Aristote, au début du livre 7, lorsqu'il compare les différentes constitutions du point de vue justement du bien qu'elles assignent à la vie humaine, et donc du point de vue de l'idéal humain qu'elles exaltent. Et c'est là alors qu'il fait remarquer que dans beaucoup de ces constitutions, qui ne sont pas toutes grecques, puisqu'il cite les Celtes, je crois, ou les Ligures, ou je ne sais plus quoi, dans beaucoup de ces constitutions, l'idéal humain, c'est celui du guerrier, et il s'agit de dominer les autres, de les écraser, et c'est à cela que prépare l'ensemble de l'éducation, de telle sorte que là, la comparaison entre les constitutions se fait non pas du point de vue du caractère national, mais du point de vue de l'éducation. Ce qui ouvre, n'est-ce pas, une perspective. S'il y avait eu une science des formes politiques chez Aristote, ou si nous avions peut-être des écrits d'Aristote qui ont été perdus, parce qu'après tout, les constitutions, c'était peut-être ça, il apparaîtrait que le sens final d'une politéia, ce n'est peut-être pas tant la question du nombre, n'est-ce pas, monarchie, aristocratie, etc., qui le donne, mais c'est la païdéia. Comment une cité conçoit-elle l'éducation des enfants? Voilà le sens d'une constitution, parce que cette païdéia donne la définition du bien que reconnaît une cité. Alors, qu'en est-il maintenant de la pensée moderne, ou de ce que Manant appelle la science politique moderne, dont il montre très bien comment elle constitue, pour une part, une réaction à un brouillage de l'expérience politique qui est dû à l'apparition, avec le christianisme, d'un souci supérieur aux politiques, supérieur au salut de la communauté politique, et qui est le salut personnel. Expérience antipolitique. Donc comment faire avec à la fois une expérience de la grandeur du politique et une expérience de la limite du politique au regard de cet au-delà du politique. Eh bien, il y a, comme on l'a dit, comme on l'a rappelé, n'est-ce pas, il y a deux versions de la science politique moderne, et c'est ici mon problème. N'est-ce pas, dire qu'il y a deux versions de quelque chose laisse entendre que ce sont des versions, et donc on devrait passer de l'une à l'autre, n'est-ce pas, comme quand on fait une version anglaise, une version grecque, bon, on passe à... Alors là, il ne semble pas que les deux versions de la science politique moderne soient juste deux expressions d'un même contenu. Ou alors, s'il y a un même contenu, quel est-il? Alors, la première version qu'il mentionne, c'est la version de la philosophie normative et déductive, avec comme auteur pour la représenter, Hobbes, Spinoza et Locke, donc des auteurs du XVIIe siècle, qui succombent, il faut bien le dire, à la manie déductive, axiomatique, euclidienne, qui confondent science et euclidisme, et ils croient qu'en présentant une déduction, on a donné de la rigueur et donc de la scientificité à son propos. Alors, ce qui les caractérise, c'est que puisqu'ils déduisent, ils ne peuvent pas déduire les faits. Donc, ce qu'ils déduisent, ce sont des devoirs, ce sont des droits, ce sont des normes à partir d'un principe normatif qui est donné par l'individu posé, l'individu du droit naturel posé avec ses droits en deçà, donc, du corps politique qui est à construire. Et donc, du même coup, ce qu'on peut dire, c'est que la philosophie qui constitue cette première version moderne, c'est ce qui la caractérise, c'est son artificialisme, pour parler comme Durkheim à propos justement de Montesquieu et Rousseau. C'est son artificialisme, par opposition au naturalisme, qui va être représenté dans maintenant par Montesquieu. Alors, naturalisme ici, non pas du tout au sens, dans le sens grec, n'est-ce pas, aucun rapport avec la Fucis. Il s'agit d'un naturalisme moderne. Donc d'une référence aux lois de la nature au sens newtonien, au sens galiléen newtonien. Et nous apprenons donc dans ce même chapitre des métamorphoses de la cité que Montesquieu, tout en donnant à la politique le premier rang, n'est-ce pas, fait du politique un facteur parmi d'autres, le premier, mais il y en a d'autres, et que donc le politique devient une des causes qui détermine les hommes, n'est-ce pas? Il y a bien des choses qui gouvernent les hommes, la citation a été rappelée, et par conséquent, nous perdons, avec cette idée de cause agissant sur l'homme, nous perdons l'idée de l'action. Eh bien, quelle est l'idée, quelle est la définition du politique qui se dégage de ces deux versions? Ma question, c'est, est-ce que sciences politiques anciennes et sciences politiques modernes sont les sciences de la même chose. Alors, si nous considérons la science politique ancienne telle que la présente de façon tout à fait juste, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est son point de vue est global. Son point de vue est global, donc il suffit de rappeler comment Aristote définit le bien politique par le fait qu'il s'impose de manière architectonique dans une pensée de ce qui se passe dans la cité. Les activités de la cité sont variées, sont multiples, sont complémentaires. Et donc, si on veut penser la cité, il faut penser cette diversité dans la relation de moyens à fin ou de conditions à conditionner, qui est la relation architectonique, laquelle met en position souveraine le responsable du bien politique. Voilà ce que nous lisons au début de l'éthique à Nicomaque. Alors, c'est très inquiétant, n'est-ce pas? J'ai mentionné tout à l'heure la thèse « tout est politique ». Est-ce que ça veut dire que le souverain, selon les Grecs, selon Aristote en tout cas, va décider de tout ce qu'il y a dans la cité? Eh bien, je crois qu'on peut tirer la réponse à cette question « tout est-il politique ?» d'une image qu'il emploie, qu'Aristote emploie à la fin du livre 6 de l'éthique à Nicomaque, dans un débat sur les vertus, et il est à la fin en train de discuter de la fonction de la phronesis, et qui apparaît en concurrence avec la sophia. Débat typiquement, est-ce que la phronesis l'emporte sur la sophia ou la sophia sur la phronesis? Et alors, Aristote répond, oui, la prudence est une vertu nécessaire, mais ça ne veut pas dire que la prudence a autorité sur la sophia, et il le soutient de deux analogies, l'une qui est tirée de la médecine et qui dit que l'art médical est nécessaire, mais il n'a pas d'autorité sur la santé. L'art médical a une autorité sur les remèdes, mais l'art médical déduit les remèdes de l'obéissance à ce qu'exige la santé. Eh bien, de la même façon, nous apprenons que prétendre que voilà les termes d'Aristote, prétendre que la prudence doit donner des ordres à la sagesse, prétendre que la phronesis doit commander à la sophia, ce serait, je cite, comme prétendre que la politique a pouvoir sur les dieux parce que son commandement concerne tout ce qu'il y a dans la cité. Donc voilà, à mon avis, la position d'Aristote. Le culte religieux a lieu dans la cité et du même coup relève du politique, mais le culte est une chose, les dieux sont une autre chose, et donc le politique a affaire à ce qui se passe dans la cité du point de vue du bien de la cité et non pas d'un point de vue totalitaire où il reviendrait aux politiques de dire ce que sont les dieux, ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire, etc. Voilà En quel sens chez les anciens, nous trouvons un point de vue global, mais qui n'a rien d'un point de vue total, si par total vous entendez totalitaire. Alors maintenant, qu'en est-il du politique, et donc c'est la fin de mon exposé, qu'en est-il du politique pris au sens de la science moderne du politique ? Eh bien, il me semble que les deux versions, justement, ne sont pas deux versions au sens où elles seraient deux points de vue sur la même chose. Si nous prenons politique au sens de l'artificialisme des penseurs libéraux, et en particulier de Locke, il apparaît, et même déjà de Hobbes, il apparaît que ce politique est très limité, puisque il se réduit à ce que des individus peuvent construire ensemble. Donc ces individus sont déjà là, et ils ont déjà tous les moyens de se parler, de s'entendre, d'avoir des intérêts à défendre, des intérêts propres, des intérêts communs. Donc ils ont déjà la vie sociale. Le domaine politique, donc, se restreint à ce que peuvent décider ensemble des individus surgis dont on ne sait où, mais qui décident de former une association. Maintenant, explique très bien comment donc cette vue déductive du corps politique est purement et simplement individualiste, puisque la déduction doit se faire à partir de l'individu, mais elle est également partielle. Puisque le penseur politique qui se veut artificialiste doit se donner quelque chose dont il ne rend pas compte, et donc laisse de côté ce que nous avions chez Aristote, à savoir la paideia, à savoir l'ensemble de la préparation à la vie civique. Et alors là, il y a une phrase sur laquelle je m'arrête un instant, dans le même chapitre. Maintenant écrit, je cite, donc la première il est question de la première version de la science politique moderne, et il dit « Cette version construit l'État moderne de façon à ce que celui-ci produise le libre individu en lieu et place du citoyen, alternativement commandant et commandé, de la cité ancienne. » Et alors là, la question que je me pose, c'est cet individu libre qui prend la place du citoyen d'Aristote, là, alternativement commandant et commandé, quel est-il ? Donc, si on se place chez Rousseau et non plus chez Locke, est-ce que c'est l'individu libre de l'état de nature, et non pas donc du citoyen ? Chez Rousseau, il faudra choisir. Ou est-ce que c'est l'individu libre d'une liberté civique supérieure, donc dans la cité et non plus dans l'état de nature ? Chez Rousseau, à la différence de ce qui se passe chez Locke, il faut, pour passer de l'un à l'autre, comme maintenant évidemment l'explique abondamment ailleurs, il faut une dénaturation, il faut une aliénation qui est la socialisation. Donc Rousseau pose un problème que Locke ne voit pas, Hobbes non plus, et qui est que si la liberté doit se comprendre comme désocialisation, alors il faut partir d'un état de nature qui rend impossible toute construction civique, et il faut, pour passer aux citoyens, une complète transformation de cet individu libre en être social. Et cela, la philosophie politique artificialiste, soit ne l'explique pas, soit comme dans le premier livre du Contrat social, à la différence de ce qui suit dans le même traité, le résout de façon péremptoire et par la déclaration, en passant le contrat social, je me dénature dans l'instant même du consentement au contrat. Alors, on peut dire que là, Montesquieu nous est très utile, puisque Montesquieu, dans un traité qui porte un titre politique, puisque c'est l'esprit des lois, traite en réalité, comme il le dit, non seulement des lois politiques, mais des mœurs et des manières, donc de toutes sortes d'institutions qui sont nécessaires aux politiques sans être directement politiques. De telle sorte que le problème devient celui de l'interprétation de Montesquieu. Alors là, je peux être très bref, puisque ça a été traité déjà abondamment. Je dirais qu'il y a trois... Montesquieu est à l'origine des trois possibilités sociologiques. Toutes les trois peuvent se réclamer de lui. Il est, bien entendu, à l'origine de l'école causaliste, de l'école du déterminisme, avec les facteurs déterminants dont il a été question abondamment. Et là... Je rejoins tout à fait les critiques que fait maintenant de ce causalisme. Je dirais que ce qui cloche dans le causalisme sociologique, c'est que la notion de causalité qui est utilisée, c'est une notion astrologique. On observe des régularités et on dit non, mais il y a des influences. Il y a des facteurs qui influencent. Mais ils influencent comment ? Par quel médium ? Comment se fait ça n'est pas expliqué. Donc nous restons dans une pensée astrologique. De son côté, l'école qui fait de la sociologie la théorie des effets émergents ou des effets de composition ou des effets pervers, si vous voulez, cette école peut également se réclamer de Montesquieu. Et elle a alors pour thèse que le social commence là où l'action individuelle s'arrête et cesse de pouvoir contrôler les conséquences de ses initiatives. De telle sorte que les deux premières écoles, celle du causalisme et celle des effets émergents, pêchent par individualisme, puisque l'une et l'autre continuent à opposer individus et société et nous expliquent que le social règne là où l'individu croit contrôler les choses, mais en réalité est agi au lieu d'agir. Alors, existe-t-il une sociologie possible qui maintienne la possibilité pour les êtres humains d'agir et qui donc fasse place à l'action humaine? Eh bien oui, c'est la troisième école, c'est l'école également de Durkheim. Le malheur de Durkheim, certainement, a donné dans le causalisme, mais il a repris à son compte l'explication que donne Mauss de l'objet de la sociologie, et cette explication se fait en termes d'action humaine, puisque ce qu'il appelle l'objet de la sociologie, selon cette définition, ce sont, je cite Mauss, « toutes les manières d'agir et de penser que l'individu trouve préétablies et dont la transmission se fait le plus généralement par la voie de l'éducation », où nous retrouvons donc la païdéia. Eh bien, manière d'agir et de penser, on croirait entendre Montesquieu, c'est ce que Mauss appelle institution, et nous avons donc ici la sociologie comme science des institutions. Alors, ces institutions ne sont en rien des facteurs qui agiraient à ma place. Ce ne sont pas non plus des puissances fascistes qui m'imposent, comme le suggérait Barthes, n'est-ce pas, m'imposent de dire ce que j'ai pas envie de dire. Ces institutions sont, par exemple, la langue, c'est-à-dire ce sont les moyens mêmes de parler et d'agir. Ces institutions, ce sont les institutions du mariage, de la monnaie, etc., qui sont les conditions de possibilité de l'action humaine, proprement humaine. Par conséquent, il me semble que cette troisième école sociologique, d'une part, échappe aux critiques que maintenant dresse contre, et à juste titre, contre les deux premières, et surtout vient donner à la version proprement philosophique de la science politique moderne ce qui lui manquait de façon à rejoindre le projet de la science politique ancienne qui était de couvrir l'ensemble de ce qui se passe dans la cité. Alors, ça n'est pas une synthèse des deux versions ni des deux sciences, mais c'est certainement l'idée que se rejoignent sur un même objet, la totalité sociale, ce qui intéresse le sociologue de cette troisième école et ce que Pierre Manant appelle forme politique.
Donc, nous pouvons passer aux questions. Peut-être, Pierre, veux-tu réagir avant les questions ?
Oui, juste sur cette question de la science politique d'Aristote, celle de Montesquieu, une troisième science. Bon, j'ai presque autant d'admiration et d'affection pour Montesquieu que pour Aristote, donc j'admire beaucoup la science politique ancienne, beaucoup la science politique de Montesquieu, donc je n'aurais certainement pas le... Je ne succomberai pas au délire d'en imaginer une troisième. En écoutant Daniel et Vincent, et aussi en pensant à ce qu'avaient dit Francesco et Perrine, je suis arrivé à une formulation qui serait à peu près celle-ci. oui, j'admets qu'il me semble que la science politique d'Aristote a quelque chose d'achevé, en un sens. Bon. En un sens, on ne peut pas faire mieux ici. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut simplement commenter Aristote indéfiniment? Bon, c'est utile de commenter Aristote indéfiniment, mais ce qu'il faut ajouter, c'est que la science politique la plus achevée, celle d'Aristote, s'exerce dans différentes conditions. Et elle s'exerce dans des conditions où l'action connaît des régimes différents, et en particulier où l'action, est beaucoup moins, où l'action des sociétaires prend beaucoup moins la forme de l'action politique que dans la cité. Voilà. Je prends un exemple fameux dans notre histoire littéraire, presque politique aussi. Les Métamorphoses, ce que Chateaubriand écrit du vague des passions. Certainement, le vague des passions décrit par Chateaubriand, on ne le trouve pas chez Aristote. Donc là, il y a... Bon. Et pourquoi on ne le trouve pas chez Aristote? Parce que chez Aristote, dans la cité grecque, il n'y a pas cette expérience que Chateaubriand décrit de façon extrêmement intéressante pour nous, comme le sentiment de soi, la frustration, l'ennui de gens qui voudraient soit agir citoyens dans la cité, soit croire comme les chrétiens jadis croyaient et se donner à leur foi. Et ces deux grands mouvements de l'âme sont éprouvés dans la société contemporaine comme impossibles. Et donc cette non-action ou inaction d'un genre particulier, qui n'est pas simplement un ne rien faire, mais qui est un sentiment de ne pouvoir pas faire certaines choses que l'humanité était capable de faire, est une occasion de frustration, de sentiments, une grande palette de sentiments, qui évidemment ne sont pas ne relèvent pas de la science politique d'Aristote, mais relèvent d'une autre description. En l'occurrence, l'autre description, c'est plutôt la littérature que la sociologie, mais d'une certaine façon... la littérature et la sociologie sont chargées, en un certain sens, de décrire ce que les instruments de la philosophie politique décriraient mal, parce que il ne s'agit pas d'action et de délibération développée, mais d'autres, il s'agit d'actions entravées, demi-délibérées, de sentiments, d'affects, de dispositions passives, mais néanmoins reliées à des actions possibles. Toutes sortes de choses que Aristote ne considère pas. Donc, il y a une science de l'action qui, me semble-t-il, est la science d'Aristote. Et puis, il y a aussi, nous avons besoin d'une science de ce qui échappe à l'action complète, à ces actions qu'on peut dire partielles ou... Bon, je n'y reviens pas. Et qui peut être la sociologie, une certaine sociologie, celle que vous avez très bien décrite, et peut-être aussi... la littérature dans ce qu'elle a de plus enseignant, si je peux dire. Alors, et seconde remarque et dernière, au fond, dans ce jeu dans lequel nous sommes entre la philosophie et la sociologie, il me semble que nous avons un admirable maître qui peut nous guider par l'incertitude même qu'il a éprouvée sur sa propre activité intellectuelle, et c'est Tocqueville. C'est Tocqueville, parce que Tocqueville dit deux choses. Il parle comme sociologue, état social, Aron le place dans la galerie des sociologues, il place l'état social dans une position de causalité, donc on peut dire qu'il a tous les titres pour être dans la catégorie des sociologues. D'autre part, il comprend sa propre démarche comme l'élaboration d'une science politique nouvelle pour un monde nouveau. Donc, il peut faire une science politique. Et ce qu'il a de spécifique est dans la manière dont il balance les deux. La science d'une action politique qui relève d'une science à la manière d'Aristote, et la conscience d'un état social, de cette viscosité du social qui échappe à l'action politique proprement dite. Alors,
ce qui est très frappant dans le cas de Tocqueville, c'est à quel point il lit les anciens sans bien y comprendre. Bon, c'est pas quelqu'un qui ne comprend pas Tocqueville, donc c'est très étonnant. Il lit Platon et il dit, bon, ben, je, non, Platon, ce que dit Platon n'a rien à voir avec la démocratie moderne. Or, tout lecteur de Platon sait bien que la description que Platon donne de la démocratie est très aisée à rapprocher de celle que Tocqueville donne de la démocratie. Donc, il me semble que dans le cas de Tocqueville, on voit à l'œuvre, avec une, je dirais, une naïveté au sens, au noble sens du terme, une naïveté exemplaire, la démarche d'un esprit qui ne veut pas être un philosophe, mais qui instinctivement est à la recherche d'une science politique de l'homme agissant, une science politique qui doit s'adresser à l'homme d'État, que lui-même veut être d'ailleurs, c'est une science politique pour lui-même, mais une science politique qui commence par prendre conscience des contraintes de l'élément dans lequel il veut travailler. Et cet élément, c'est l'État social, l'égalité, le sentiment du semblable, l'identification au sociétaire et à l'État central, toutes sortes de conditions qui, définissent, caractérisent, ou précisément conditionnent l'action politique. Mais dans le cas de Tocqueville, l'œuvre de Tocqueville est une œuvre réversible, d'une certaine façon. On peut la lire, en effet, comme une œuvre de sociologue, et on peut la lire, en effet, comme la continuation d'Aristote dans d'autres conditions. Et il me semble que, en ce sens, il nous donne le modèle de ce que nous pouvons essayer de faire.
Donc, est-ce que, si je comprends bien, à ce moment-là, on pourrait te lire de la même manière?
Je ne t'intéresserais pas de me lire de cette manière.
Non, mais je veux dire, non. De façon réversible, c'est-à-dire... à la fois à partir du point de vue de la science politique d'Aristote et ensuite...
Disons que je crois qu'il y a, des conditions de la sociabilité, des conditions de l'éducation, ou une spiritualité du social, qui conditionne l'action politique. Exact. Et donc là, ça ouvre une large carrière à ce qu'on peut appeler la sociologie ou la littérature ou autre chose.
Oui, c'est une question à Daniel Tanguay, en fait, relativement à ce qu'il a dit de l'inflexion qui s'opère entre la cité de l'homme et les métamorphoses de la cité, le déplacement de la question du meilleur régime vers la question des formes. Et il me semble que... il y a une autre inflexion qui est sensible pour le lecteur des métamorphoses de la cité. C'est le fait qu'il y ait comme proposition le fait de se démarquer du prisme de l'opposition entre les anciens et les modernes, et d'insister sur le fait qu'il y a une première modernité. Et que à ce titre-là, justement, c'est ce qui vient donner sens à l'idée de métamorphose. Parce que, par rapport à ce qui a été dit, notamment par Francesco Calegaro, ou à l'idée de forme aussi, inséparablement, c'est que c'est bien la cité qui se métamorphose, qui a connu des métamorphoses et en quelque sorte des transformations qui pouvaient donner le sens qu'on avait une autre forme, et néanmoins c'est bien la cité qui se transforme. Or l'importance, je crois, de cette remarque et de cette attention à l'exemple romain, je crois, dans le livre, c'est d'abord bon d'ouvrir à la question du christianisme, naturellement déjà, et pas simplement à la question de l'État-nation, mais c'est aussi de donner un autre sens, un autre aspect, disons, à l'idée de science politique, il me semble, qui n'est pas forcément compatible avec les projets d'une sociologie, il me semble, parce que s'il y a un invariant qui est la cité, et implicitement un autre invariant qui est... l'homme comme animal politique, ce qui doit être gagné, il me semble, à ne pas rester sur l'opposition entre anciens et modernes, entre eux et nous, qui est constitutif, disons, d'un certain discours qu'on trouve, par exemple, chez Montaigne et chez beaucoup de penseurs du XVIe, c'est précisément qu'on peut parler à la première personne du pluriel. On peut dire « nous » en se rapportant à la fois aux Grecs, aux Romains, et que je ne suis pas sûr que ce « nous » soit acceptable, disons, du point de vue d'une sociologie.
Ouais. Écoutez, je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait votre question, mais vous savez, c'est vraiment, je jongle avec cette idée, d'ailleurs, l'idée selon laquelle il y a un infléchissement. Je le sens qu'il y a un infléchissement dans le travail, mais en même temps, on pourrait montrer que la notion de forme est déjà présente dans l'histoire intellectuelle du libéralisme parce que le chapitre initial sur le problème théologico-politique montre bien que la question de la forme est déjà présente. Ce que je voulais surtout mentionner, ce qui est essentiel pour moi, puis ça revient avec la question de la troisième sens, science ou synthèse, c'est que j'ai comme l'impression que dans un premier temps, la pensée de Pierre Manent s'est plutôt mue, finalement, dans un affect antimoderne de nature strassienne, avec finalement une sorte d'opposition majeure entre les anciens et les modernes, la question du meilleur régime. Donc, avec une très, très forte insistance sur le type de reconstruction que Strauss a fait de la modernité, que Manent a modulé. Et tout à coup, après la Cité de l'Homme, c'est comme si, finalement, cet élan-là avait été arrivé à son point d'acmée. Bon, et tout à coup, il y a comme un second départ. Et ce second départ-là marque, finalement, une rupture avec le premier parce que, dans le cas de la pensée strassienne, c'est évident que la question du meilleur régime est toujours centrale et que, d'une certaine façon, la question du meilleur régime, c'est la question principale qui est posée par la philosophie politique ancienne. Et alors que quand Manent réintroduit la question ou introduit la question de la forme, puis que la question de la forme devient la première question, elle bouleverse l'équilibre de la philosophie politique ancienne, du moins tel que Strauss l'entendait. Donc, il y a une nouveauté, là. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Pierre, tout à l'heure, a dit, en toute modestie, que ce n'est pas une science, c'est une troisième science. Il dit, au fond, c'est un prolongement de la science d'Aristote. Mais en même temps, tout à l'heure, il nous a dit, bon, Marcide de Padoue avait vraiment vu que, finalement, il y avait quelque chose qu'Aristote n'avait pas vu. Donc, d'une certaine façon, Aristote ne nous donne pas, il n'a pas envisagé toutes les formes politiques qui sont apparues par la suite dans l'histoire. Donc, nous qui avons finalement ces multiples sciences à notre disposition, ben, on a forcément un point de vue qui est plus riche sur les palettes des formes politiques que les anciens ne pouvaient pas envisager. Donc, c'est pour cette raison-là que Manent dit dans son introduction, tu dis, Pierre, dans ton introduction, qu'à la fin, tu veux pas que ça soit une troisième science. Mais dans les faits, mon argument, c'est celui-là, c'est que c'est une science, finalement, qui est supérieure puisqu'elle contient les deux autres et qu'elle présente finalement celle-ci dans une succession ou dans une sorte de synthèse. Donc, non.
Je ne veux pas accaparer le micro. Je ne suis pas convaincu par l'idée d'une synthèse, en fait. J'ai juste tendance à penser que, c'était le sens de ma remarque, c'est qu'il y a la construction d'un « nous » qui ne peut pas se... Enfin, si on parle de métamorphose, on parle de la métamorphose, on suppose une forme de substrat, néanmoins, qui se modifie, qui n'est plus le même, mais néanmoins, on a quand même une figure...
Un substrat qui demeure.
Voilà, et on a l'idée d'un animal politique, d'une compréhension des motifs humains de l'action, qui doit encore avoir un sens pour nous. Et ce « nous » fait qu'il peut s'employer relativement aux Romains, aux Grecs, à d'autres époques, à toutes les époques où il y a eu une forme de cité. Cette forme a pu changer, mais néanmoins, cette compréhension-là, on doit l'avoir.
Bien sûr.
Je ne crois pas que ce soit exactement la perspective sociologique.
D'accord.
Mais, écoutez, je rejoins ce que disait à la fin Francesco. Vous prenez le livre de Mauss sur la nation. C'est bien un sociologue, n'est-ce pas? Alors, que dit-il? Comment définit-il la nation? Alors, tout son texte, c'est pour expliquer que, officiellement, il y a plein de nations. Tous les États indépendants sont des nations, mais les vraies nations sont très peu nombreuses. En 1920, quand il écrit, il en compte 15, je crois. Et comment le définit-il? Eh bien, par l'expérience, ce que maintenant appellerait l'expérience civique. Ouais, donc c'est la ethnée, polis, il y avait l'Empire, etc. Et donc la nation, c'est l'équivalent, dans les conditions de volume moderne, de ce rapport du citoyen à la loi qu'avait réalisé la cité antique. Donc, peut-être certains sociologues ne pourraient pas dire nous, mais là, nous avons, n'est-ce pas, c'est pas une invention, c'est écrit par un sociologue.
Oui, rapidement, ce sera peut-être incongru. Vincent Descombes a, avec beaucoup de brio, passé en revue les avant-gardes ringardes. Il y a quelque chose qui n'est plus une avant-garde, mais qui a beaucoup compté quand même au XXe siècle, et dont j'entends beaucoup d'échos, j'ai l'impression, en tout cas, du point de vue du fond, dans ce dont on parle en ce moment, c'est la phénoménologie. Il y a une toute petite remarque dans la Cité de l'Homme où il est dit que l'auteur le plus sérieux de cette école, c'est Heidegger. Puis on passe très vite à autre chose. Mais enfin, il y a au moins un auteur sérieux. Et puis, il y a... Pardon. Et puis, il y a, dans ce qui a été dit par les orateurs... quelque chose qui me fait penser à d'autres phénoménologues, par exemple sur la notion de condition. Alors, est-ce que c'est une phénoménologue? En tout cas, elle a été formée par des phénoménologues. Hannah Arendt, elle résout le problème, si on peut dire, de l'opposition entre sociologie et politique en disant l'homme est toujours conditionné, ça ne veut pas dire qu'il est déterminé, ça veut dire qu'il vit dans des conditions qu'il ne crée pas. Et à partir de ces conditions, il crée du nouveau. Et donc, elle se situe au-delà de l'opposition entre la liberté du tournebroche, comme dirait Kant, et puis la pure liberté de celui qui crée à partir de rien, etc. Un dernier rapprochement entre la phénoménologie et, et ce dont on parlait en essayant d'identifier, au fond, le mode de recherche de Pierre Manant. C'est quelque chose qui est avant la phénoménologie, mais qui a beaucoup influencé la phénoménologie, c'est la notion de gestalt. Et est-ce que la notion de forme, chez Manant, peut être rapprochée de cette notion? Parce qu'il y a beaucoup de points communs, j'ai l'impression. Cette idée que il y a... Enfin bon, je ne vais pas refaire une explication de ce que c'est que la gestalt. Mais ça fait quand même beaucoup d'éléments convergents qui font que j'interroge à la fois les lecteurs de Pierre Manant et Pierre Manant sur la possibilité de trouver dans la phénoménologie des réponses aux questions qui sont posées, ou est-ce que c'est là aussi quelque chose qui, je dirais, nous éloigne des choses politiques traitées sérieusement.
Écoutez, il y a finalement une question de filiation intellectuelle, parce que finalement, on peut envisager que Strauss, c'est un phénoménologue d'un certain sens, et sa démarche ressemble à celle d'Heidegger, même dans le... Heidegger a cherché finalement à se rattacher, on pourrait dire, au monde grec avant, finalement, les distorsions que la modernité a faites de la réception de cette pensée, donc un retour à une conscience naturelle première. Et cette conscience naturelle première se trouve chez Aristote, avant que finalement cette conscience première devienne distorsionnée par l'histoire. Et donc, le retour qui est proposé par Strauss, c'est de retourner finalement à la lecture des anciens pour permettre finalement de recouvrer cette conscience naturelle qui a été finalement distorsionnée par des discours savants, par la modernité, etc. Et dans la démarche de Pierre Manant, il y a quelque chose qui ressemble à ça aussi, c'est-à-dire, quand on retourne à Aristote, on retourne en quelque sorte à une expérience première, une expérience immédiate, naturelle de ce qu'est l'homme en train de délibérer, et donc c'est une démarche phénoménologique dans ce sens-là. C'est retourner aux choses mêmes, mais ces choses mêmes, ce ne sont pas les choses de la perception, ce n'est pas l'être, mais c'est les choses politiques, puisque finalement, ce sont ces choses politiques qui constituent notre expérience naturelle première. Donc, en retournant à Aristote, on retourne à cette expérience naturelle première. Et donc, c'est le même mouvement même mouvement que Strauss a fait et que Manant fait, bon, à partir d'une approche, disons, phénoménologique. Mais Pierre n'utilise pas ce terme-là parce qu'au fond, phénoménologie, ça peut vouloir dire tout et rien. Puis je pense qu'il est, comme j'ai dit dans mon exposé... Oui, mais c'est la même chose, Husserl, c'est-à-dire se retourner à la conscience naturelle. Dans le cas d'Husserl, c'est finalement conscience naturelle qui a été distorsionnée par la science, retourner aux perceptions des choses telles qu'elles se donnent à nous, c'est uniquement la définition de ce qu'est le retour aux choses mêmes qui est différent. Dans le cas d'Heidegger, c'est le retour, disons, à l'être ou à la question de l'être. Dans le cas de Strauss ou de Pierre Manant, c'est la question, non pas du retour à la question de l'être, mais la question du bien politique, c'est-à-dire de la conscience naturelle de l'homme en tant qu'animal politique. Donc, c'est le même type de mouvement.
J'avais juste une remarque à ce propos de la phénoménologie. Je me souviens que quand Pierre Manant faisait le cours sur l'éthique à Nicomac, il commençait tout le temps en disant que c'était une galerie phénoménologique. et il citait un propos de Pierre Banque qui disait qu'en somme... Il y a une dimension constitutivement phénoménologique dans l'éthique à Nicomaque. D'ailleurs, ensemble, la phénoménologie herméneutique est juste sortie d'une lecture de l'éthique à Nicomaque. Donc, c'est toujours l'histoire du lapin dans le chapeau. J'avais plein de questions théoriques, mais je voulais juste. Je ne m'attendais pas du tout à avoir les mêmes questions revenir dans les trois exposés. Donc, je voulais juste revenir sur cette pique que j'avais faite sur la troisième science. J'avais pris le risque de dire il y a un troisième science. En fait, je suis d'accord avec Daniel Tanguay. Simplement, je pense qu'il y a c'est la différence entre l'auteur et les autres.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que je pense que c'est absolument évident qu'il y a un troisième science. C'est dans la mesure même où elle est fondée sur un concept qui n'est pas aristotélicien. Donc, c'est simplement que c'est aux autres d'en tirer les conséquences. Mais je pense que, voilà, je voulais juste rajouter cette remarque, mais je pense qu'on ne peut pas douter du fait que, juste pour rajouter un dernier élément, je pense que le critère pour la saisir, c'est justement la critique de Strauss, qui parcourt toutes les métamorphoses. Ça, à tous les moments clés, justement, il fait valoir ce que la forme politique, ce qu'un regard axé sur la forme politique permet de voir, par exemple la nécessité, et pas seulement le bien, pas seulement le choix du régime en fonction du bien, mais aussi la forme qui s'impose, un régime de la nécessité qui vient du volume, par exemple, et de son développement immanent. Il y a des marqueurs comme ça dans le livre qui montrent qu'en fait c'est le point de départ d'une nouvelle science du politique, je pense.
Je propose qu'on en reste là, si vous voulez bien, et il faut au moins attendre la fin de la journée de demain pour passer aux études manantiennes, aux controverses des partisans du Manant 1, du Manant 2. Donc je propose que l'on remercie nos quatre orateurs.